Mathias Sénard.
Exploration des moteurs, des engrenages de la littérature d'aujourd'hui. Écoutons le concert des bielles de la fiction, les pistons du récit. Tour à tour autrice, traducteur, mais aussi dessinatrice ou scénariste de bande dessinée nous font visiter leur salle des machines. Nous ouvrent le capot de leur livre et nous expliquent comment tels et ils plongent les mains dans le cambouis. De quelle façon on met à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame. Comme disait Blaise Cendrars à bord du paquebot Normandie, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une salle des machines poétique et voyageuse. Tout d'abord, c'est Muriel Pic qui soulèvera pour nous le capot de son livre « Affranchissement », au pluriel, paru dans la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil. Notre caillou dans les poches sera consacré à Stéphane Mallarmé et à la réédition du déchirant Tombeau d'Anatole. Puis c'est Bernard Chambaz qui viendra s'entretenir avec nous de Oural Oural encore, chez Paul Sen. Et enfin Marie Baudry, autrice de Osip Osipovitch aux éditions Alma, enverra son message par le transmetteur d'ordre de la salle des machines.
Spring and all. By the road to the contagious hospital, under the surge of the blue mottled clouds driven from the northeast, a cold wind beyond the waste of broad, muddy fields, brown with dried weeds, standing and fallen. Patches of standing water, the scattering of tall trees. All along the road, the reddish, purplish, forked, upstanding, twiggy stuff of bushes and small trees, with dead, brown leaves under them, leafless vines. Lifeless in appearance, sluggish, dazed spring approaches. They enter the new world naked, cold, uncertain of all save that they enter. All about them, the cold, familiar wind. Now the grass, tomorrow the stiff curl of wild carrot leaf. One by one, objects are defined. It quickens, clarity, outline of leaf. But now the stark dignity of entrance. Still, the profound change has come upon them. Rooted, they grip down and begin to awaken.
Bonjour, Muriel Pic. Vous ouvrez votre livre « Affranchissement » sur ce poème que nous venons d'entendre, « Spring and All » de William Carlos Williams, poème de 1923, que l'auteur lit en 1955 lors d'une lecture publique à l'université de Berkeley. William Carlos Williams, poète américain, médecin, mort en 1963. Le printemps et tout ce qui va avec, la route de l'hôpital contagieux. Que représente ce poème pour vous ?
Alors, je suis très impressionnée d'avoir entendu comme ça le poème lu par la voix de Williams. Ce poème, il a représenté pour ce livre, Affranchissement, vraiment un appel au désir, au désordre. En fait, ça a été un peu un modèle. Quand j'ai ouvert le livre de Williams, c'est que j'ai vu la manière dont il mettait ensemble à la fois la poésie, des chapitres, une sorte de roman invisible. Son audace m'a vraiment encouragée à essayer de trouver une forme qui essaierait d'être absolument libre. Alors, en fait, ce poème, il représente pour moi vraiment une performance de liberté, d'écriture. Je crois que c'est ça. Un appel au désir, à la liberté, au départ.
Muriel Pic après deux essais, l'un consacré justement au désir, mais chez Pierre-Jean Jouve, et l'autre à Végez Ebald. Vous publiez un récit singulier dans la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil, intitulé « Affranchissement » au pluriel. Vous avez aussi traduit Walter Benjamin, vous êtes l'autrice d'un ensemble de poèmes portant le beau titre d'élégie documentaire, dont la matière, la moelle, poétique allemande, spatiale et mélancolique, pourrait être un croquis, une ébauche de ces affranchissements où la poésie joue un rôle éminent.
Alors après ce texte, Spring and Hall, c'est devenu... Il m'a semblé me souvenir, mais je ne sais pas si je m'en suis souvenue ou si je l'ai imaginé, qui se rattachait à la dernière rencontre que j'avais eue à Londres avec Jimmy. Mais je ne sais pas non plus si j'ai rêvé ou si j'ai imaginé ou si vraiment je me suis souvenue de cette dernière rencontre. Mais en tout cas, le livre et le personnage se sont liés. Et en fait, j'ai écrit Affranchissement en ouvrant au hasard Spring and Hall. En fait, chaque chapitre de l'ouvrage s'ouvre sur une citation du livre de Williams, où il est question continuellement en fait de la liberté que donne l'imagination. Et c'est vrai que pour moi, le poème est vraiment très important. Enfin, c'est vraiment une forme qui est peut-être en ce moment moins facile à éditer aussi, enfin qui présente aussi pour les éditeurs plus de difficultés, mais qui pour moi est vraiment la reine des formes littéraires dans sa capacité à court-circuiter, à accélérer, à produire de l'image. Et dans Affranchissement, il y a le poème qui tient, qui est en fait la colonne vertébrale du livre, et autour il y a la prose comme ça qui s'ouvre avec les images. Et le poème essaye de restituer les derniers instants de la vie de ce personnage.
Donc Affranchissement est tout de même un récit dont le fil conducteur, le personnage principal, est cet oncle James, votre grand-oncle, dont vous nous racontez finalement la vie. Ça pourrait être une biographie de l'oncle Jim.
C'est un récit du point de vue de l'essai, parce qu'il y a toute une réflexion sur l'imagination, sur le legs, sur la dette, sur la... C'est aussi donc un poème, un récit, un essai. Enfin, j'ai vraiment essayé justement de nous libérer des formes, hein, des ou de tout le temps traverser des frontières avec le lecteur. En fait, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement l'idée de raconter la vie de quelqu'un que j'ai connu et que j'ai aimé. C'était surtout de voir comment cette vie se liait pour moi à un moment donné, hein, où j'ai porté attention à un événement, se liait au passage au second millénaire, donc à quelque chose de vraiment très vaste. Au contraire, une biographie, une existence finalement, on peut la placer à un niveau presque microscopique, hein, dans la totalité des temps. Et là, ça se liait, en fait, sa disparition a coïncidé avec le passage au troisième millénaire. Et ce qui a enclenché le récit, c'est le moment où j'ai retrouvé en fait des enveloppes que je n'avais pas ouvertes, qui m'avaient envoyées, avec à l'intérieur donc des timbres. Et ces timbres étaient les timbres dits du millénium, donc qui revenaient sur le millénaire qui venait de s'achever, enfin qui étaient les timbres de 99-2000, les deux années du millénium. Donc à la fois je l'ai retrouvé lui, en retrouvant ces timbres avec ce délai, cette culpabilité aussi de ne pas les avoir ouvertes avant, ces enveloppes, et puis aussi cet émerveillement de le retrouver là. Voilà, donc plus qu'une biographie, c'était un peu une volonté de croiser les échelles pour revenir sur ce moment un peu singulier quand même d'un passage à un nouveau millénaire où, dans mon souvenir, ça a produit quand même beaucoup de prophéties diverses. Enfin, voilà, c'est un moment historique assez étrange dans ma mémoire, en tout cas, cette période-là.
Donc le texte, ces affranchissements, bien sûr, affranchissement vient de cet arbre dont vous parlez. En tout cas, c'est un des sens, hein, on verra qu'il y en a plusieurs. Et donc aussi le récit de l'existence de Jim depuis son enfance, parce qu'on peut le reconstituer comme ça, hein, depuis cette ville de Menton, on va y revenir, au début du XXe siècle, l'hôtel Bellevue. Et puis, et c'est un peu la particularité du livre, du défi que représente Affranchissement et aussi de l'existence de Jim, c'est que il est toujours, on a l'impression, le personnage et le livre sont toujours entre deux ou plusieurs langues. Et dès l'ouverture du livre, on est face à ces poèmes bilingues entre français et anglais.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, toute fin est liée au début, et tout début est lié à la fin. Enfin, quand j'ouvre un livre, je regarde toujours les premières pages et les dernières, puisqu'il me semble que ce n'est pas pourquoi, enfin, qu'on n'écrit pas un livre pour répondre à cette question-là, mais plutôt c'est comment. Et là, il s'est passé un peu la même chose avec les... Je me suis retrouvée vraiment confrontée à la fin de son existence, et du coup, ça m'a ramenée au tout début de son existence. Et aux premières années qu'il a passées à l'hôtel Bellevue, qui était un palace de Menton, puisqu'il venait d'une famille qui finalement, quand j'en parle, n'est pas la mienne. Enfin, vraiment, on m'a dit plusieurs fois que c'était autobiographique, mais en fait, ça s'est vraiment éloigné de moi, tout en restant très proche. Je sais pas, enfin, il y a eu là une sorte de connexion étrange. En fait, je me suis rendu compte aussi que si je m'étais intéressée dans les élégies documentaires dont vous avez parlé un peu avant à la question du tourisme, c'est parce que cette famille, en fait, a été une des premières à coloniser, j'ai envie de dire, la Méditerranée française. Hein, c'était les premiers hôtels ont été construits par des Britanniques. Et là, s'est développé tout un tourisme de luxe qui était aussi un tourisme sanitaire. Parent finalement de ce qui s'est aussi développé dans les sanatoriums en Suisse dès la fin du 19e siècle. Donc là, il y a plusieurs histoires, plusieurs récits, plusieurs réflexions qui se sont nouées autour de ce personnage qui lui-même aussi a été dans les sanatoriums. Donc j'ai suivi comme ça plusieurs pistes et puis enfin moi-même étant très proche de la Suisse puisque j'y vis de manière régulière depuis plus de 10 ans. Je me suis aussi rendu compte qu'il me ramenait vers ce pays-là, vers cette où je parle l'allemand, donc vers cette langue-là, tout en m'interrogeant sur mon rapport à l'anglais. Donc j'avais l'impression aussi d'avoir des fragments de souvenirs qui venaient dans une langue et puis d'autres choses dans une autre. Enfin, voilà, c'était et avec tout ça, il a fait que je produise un équilibre. Et que j'essaye de relever le défi que je m'étais fixé un peu toute seule, qui était d'essayer d'organiser une perte de sens pour produire un effet de liberté dans le texte. Et l'image que j'avais en tête, en fait, c'est le Jardin des délices de Bosch, parce que j'avais une citation aussi de Michel de Certeau qui lit ce tableau, où il dit qu'il y a une manière d'organiser une perte de sens, de donner des indications pour se perdre. Et c'est ce que j'avais envie de faire, pour aller vers aussi cette question de la bifurcation, qui me semble être un vrai modèle de liberté.
C'est un texte hybride dans lequel on ne se perd pas forcément, mais si, on se laisse en tout cas aller à énormément de diversité. Quand je dis hybride, c'est que justement on rencontre, comme je le disais, ces longs poèmes bilingues, qui sont anglais et français, donc on ne sait pas si lequel est l'original, lequel est la traduction. Je vois que vous souriez, Muriel Pic. Pourquoi est-ce que pour vous, évidemment, c'est évident quel est l'un et l'autre, comment séparer l'original de la traduction. Pour moi, ce sont deux reflets, hein, l'un en anglais, l'autre en français. On voit aussi des citations en italique qui émaillent le texte, dont la liste des auteurs est donnée à la fin. Et pourtant, tout ça construit une constellation, pas forcément un récit linéaire, mais qui, dans la constellation dans laquelle brillerait un peu la lune ou l'astre de l'oncle Jim. Donc on parlait de l'anglais, pourquoi ? Parce que cette famille, il faut le préciser, est franco-britannique ou franco-anglaise, celle qui tient cet hôtel à Menton. Et donc Jim, au début du siècle, est un enfant malade. Il est atteint de tuberculose osseuse, maladie bien sûr extrêmement grave, et qui va un peu conditionner justement le début de son existence.
Oui. Oui, oui, cette maladie. En fait, c'est aussi ce qui m'a toujours attachée à cette personne, que finalement j'ai assez peu connue. C'est justement le fait qu'il ait ce handicap, qu'il le tenait toujours à part. Enfin, il avait toujours eu des manières de réagir et d'être là, qui étaient différentes des autres. Il avait aussi une grande capacité au silence, enfin, tel que je l'imagine, encore une fois, puisque finalement je l'ai très peu vu. il a tissé quelque chose avec moi dont je n'avais pas conscience à travers ses envois réguliers. Et là, il y avait aussi quelque chose de l'ordre du désir, enfin de quelque chose de vraiment très fantasmatique, aussi par rapport à ce personnage qui était comme une manière de voir le monde depuis la situation de quelqu'un qui est handicapé, donc qui va avoir moins de possibilités dans le réel que quelqu'un qui ne l'est pas, donc qui va développer une imagination différente et se positionner aussi par rapport aux autres de manière marginale. Et je crois que c'était aussi ce regard-là sur l'histoire, sur le passé et sur la société que je voulais essayer de, dont je voulais essayer de m'emparer d'une certaine manière.
Et ce que la société fait des corps aussi, hein, parce que bon, donc il est bossu, c'est ça qui va caractériser, disons, son apparence physique extérieure en tout cas. Et d'ailleurs, les premiers chapitres du livre sont consacrés à ce qu'a représenté la bosse. C'est assez passionnant d'ailleurs de se laisser guider par cette manifestation de quelque chose qui a été prise pour bien des mots, bien des symboles, hein, au fil du temps.
Bah, disons que le bossu, c'était un prodige, enfin c'était un monstre, hein. Donc un monstre, c'était aussi un présage, donc c'était aussi quelque chose qui pouvait, la naissance d'un enfant qui devient malade, ça pouvait annoncer aussi des choses néfastes. En fait, j'avais été aussi très retenue quand je suis allée travailler à la bibliothèque Abby Warburg, à l'Institut Warburg à Londres, de trouver un rayon monstre. Et là, il y a à la fois des ouvrages de magie sur la signification d'une naissance monstrueuse, hein, et en même temps des ouvrages de médecine extrêmement précis sur la question des malformations et de leurs évolutions. Et donc là, j'avais deux pôles, hein, de magie et de science qui m'ont tout de suite fascinée, enfin qui m'ont toujours fascinée. Et du coup, ce grand oncle qui existe, qui a existé, hein, ça c'est même si le passé me semble de plus en plus irréel, enfin la chose la plus irréelle qui soit, enfin est à la fois une personne et un personnage. Enfin, il m'entraînait tout de suite du côté du conte aussi, de l'enfance, de l'imaginaire, de la fiction finalement. Et je crois que j'ai aussi travaillé avec ça.
Donc après cette enfance à Menton, Jim s'installe à Londres où il travaille et donc il a une relation avec ce que vous appelez le vivant, la botanique, hein, un monde non seulement fascinant mais plein de sens pour l'auteur que vous êtes.
Alors toute cette question de la botanique, elle apparaît de plusieurs façons dans le livre. D'un côté, il y a l'herbier, qui est un objet que j'aime beaucoup, qui a une sorte de procédure de montage, une manière aussi comme ça d'accumuler des formes. Et en même temps, la botanique, c'est le jardin, hein, c'est ce moment passé à arroser des plantes, parce que si vous le faites pas, elles pourront pas continuer. Enfin, c'est l'attention aussi à ce qui peut paraître ne pas avoir d'importance, on va dire. C'est une manière d'être toujours tourné vers la terre. Et je crois que ce Jim, avec son handicap, avec ce qu'il était, avec cette manière qu'il avait de traverser tout le temps plusieurs langues, hein, d'appartenir à aucun lieu finalement à cause de l'histoire de cette famille, il entrait dans une forme de méditation qui lui donnait aussi comme personnage fantastique, comme personnage bossu, une entrée finalement vers une sorte de pays des morts. Et je pense que les gens qui sont capables de faire de tels voyages par l'imagination arrivent à donner une attention à des choses sans relief, comme un jardin, comme une prairie sèche. Donc c'est ce qu'il essaye de faire à la fin. Et c'est là que le thème de la botanique se cristallise, avec évidemment aussi, bien sûr, la grande fascination pour la question du nom, le nom des fleurs, l'invention des noms de fleurs, comment on les invente, comment on les crée, de quoi. En fait, c'est politique, c'est historique, et en même temps, c'est une sorte de divagation poétique, hein, les noms des fleurs.
Vous dites, on peut évaluer l'état d'une société à trois choses au moins, la manière dont elle traite les morts, les vivants et le vivant.
Oui, semble que c'est assez. Enfin, je suis toujours d'accord avec cette affirmation. Ben, il suffit de voir le vivant, comment on traite le vivant. Il suffit de voir les questions de migration, d'écologie, etc. Les morts, j'ai un sentiment très partagé sur la manière dont... sur les modalités politiques de gestion du deuil et aussi dans les intimités. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc les vivants, à ce moment-là, j'étais assez frappée par les questions des migrations, des questions d'hospitalité, comme tout le monde, hein, finalement. Donc je me suis dit, mais comment on traite certaines personnes ? Le vivant, c'est ces questions d'écologie qui nous préoccupent de plus en plus. Et les morts, c'est notre manière de commémorer.
L'affranchissement est aussi un livre politique, puisqu'il est question de l'affranchissement, de s'affranchir. C'est pas uniquement coller un timbre sur une enveloppe, hein. C'est aussi, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, un geste de liberté.
Il est vrai que j'essaie d'avoir une approche politique dans mes écrits. J'essaie de réfléchir, disons, poétiquement ou politique, ou politiquement ou poétique. Les deux là peuvent se mettre ensemble. Comment ? Parce que je pense que l'imagination peut vraiment nous montrer des choses qu'on ne voit plus, hein, ou nous porter à regarder, à adopter des points de vue qui nous permettent de remettre en question des choses qui nous semblent complètement établies. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut s'émanciper de la production de pensées qui nous est infligée quotidiennement, enfin d'une manière où parfois moi je me sens prise en otage, hein, mais comme pas mal de gens, je pense que c'est une émotion assez assez banale finalement.
Et puis cet affranchissement, c'est aussi pour vous un geste de liberté, une quête de liberté. Vous disiez qu'est-ce que Sebald vous a offert comme liberté, justement ? Qu'est-ce qui vous a permis que peut-être vous n'auriez pas pu sans lui ?
Alors, est-ce que Sebald m'a permis d'entrer dans l'écriture en m'emparant des images ? Certainement, il m'a décomplexé, on peut dire, hein, dans le sens où... Mais pas seulement Sebald, hein, Flaubert aussi. Il y a aussi tout ce travail d'imagination documentaire. Benjamin, enfin, il y a toute une constellation d'auteurs où, disons, assumer pleinement le fait que j'ai la maîtrise de mes... Enfin, la maîtrise. Qu'il y a une partie qui a, dans ce que j'écris, qui maîtrise les conditions de production de mon écriture. C'est-à-dire qu'il y a des références, il y a des lectures, il y a un système d'érudition qui est mis en place et qui, après... s'émancipe ou s'affranchit justement de tout ce qui pourrait être académisme ou écriture universitaire ou critique littéraire, en passant au prisme du rêve. Enfin, de plus en plus, j'ai une sorte de contrôle de mes rêves, en fait. C'est-à-dire que quelque chose travaille la nuit et une chose que j'ai lue ou une pensée qui n'a pas trouvé d'aboutissement à l'état de veille peut trouver une forme d'histoire dans le rêve. En même temps, ma situation universitaire a toujours été très compliquée, puisque je suis ni tout à fait une universitaire, ni du coup seulement un écrivain. Donc j'occupe une sorte de place entre deux, une sorte de zone. Voilà, ça fait déjà pas mal de temps.
Est-ce qu'il faut se défaire de l'influence ou au contraire, est-ce qu'il faudrait s'y rouler comme dans la paille ?
C'est une belle question. Ben, je pense que ça dépend des moments. Je pense qu'il n'y a jamais rien de systématique, en fait. C'est aussi ça, je crois, le rapport à la liberté. C'est le refus de tout systématisme. Je crois qu'un livre, c'est à la fois des choses très anciennes qui restent là. Et c'est aussi vraiment un moment très précis, une durée très précise dans la vie d'un auteur où il est attentif en fonction de ce dont il a décidé de parler ou qu'il le travaille. Il est comme un capteur de sensible à tout ce qui pourrait produire du sens autour de la question qui se pose. Et à un moment donné, des choses arrivent qui auraient été autres à une autre période de l'existence.
Vous écrivez, page 94, c'est le destin minuscule d'un personnage, Jim, surgit du cadre dentelé d'un poème philatélique. Merci beaucoup Muriel Pic pour ses timbres postes et ses libertés et ses affranchissements.
Au revoir.
Le 6 octobre 1879, à 3h de l'après-midi, mourait de maladie à l'âge de 8 ans, Anatole Mallarmé, fils de Stéphane Mallarmé. Pour son père, l'écrivain, le poète, écrire sa peine est impossible. Il n'y a pas de consolation. Le temps du deuil est long et froid. L'absence de lettres qui fut la flamme et la joie de la maison nous glace, comme le ferait le froid du dehors qui sévit au carreau, écrit-il dans une lettre à la Noël 79. Ce n'est que plus d'un an plus tard qu'il commence à écrire ses vers pour un tombeau d'Anatole, restés inédits jusqu'à ce que Jean-Pierre Richard, à la toute fin des années 50, n'en entreprenne l'édition à partir des 202 feuillets originaux, édition que Point Poésie réédite aujourd'hui intégralement, accompagné de l'extraordinaire introduction et étude de Jean-Pierre Richard. Comme il le dit lui-même, ne pas toucher, mais se tendre tout entier vers l'intouchable et prolonger le geste imparfait par l'heureuse plénitude d'un discours, comme ailleurs par la victorieuse transparence d'un regard, tel sera le sens profond de cette prière. Une caresse sur le feu d'un visage absent. Enfant sorti de nous deux, nous montrant notre idéal, le chemin. À nous, père et mère qui, lui, en triste existence, survivons comme les deux extrêmes. Mal associés en lui et qui se sont séparés. D'où sa mort, annulant ce petit soi d'enfant. Le père cherche et s'arrête, l'enfant étant là encore comme pour ressaisir la vie. Or, interruption chez le père, et la mère apparut espoir, soin, le double côté, homme, femme, tantôt chez l'un, chez l'autre, d'où union profonde. Et toi, sa sœur, toi qui un jour, ce gouffre ouvert depuis sa mort et qui nous suivra jusqu'à la nôtre, quand nous y serons descendus, ta mère et moi, toi qui un jour, dois un jour, nous réunir tous trois en ta pensée, ta mémoire, de même qu'en une seule tombe, toi qui, selon l'ordre, viendras sur cette tombe, non faite pour toi. Petit corps, mis de côté par mort, une main, qui un instant avant était lui, écrit, sans presque faire attention à ce corps mis à part, « Ô mon fils !» Comme vers un ciel, instinct spiritualiste, suspend, rupture, parti, oh, ce sacrifice, pour cela nier sa vie, pour l'ensevelir. Causons de lui encore, éteignons. En réalité, silence.
Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Bienvenue Bernard Chambaz. Bernard Chambaz, vous êtes poète, voyageur, cycliste, essayiste, romancier, vous êtes un athlète complet de l'écriture. Tout le monde se souvient des dernières nouvelles du Martin Pêcheur ou de la petite philosophie du vélo ou encore d'etc. Votre avant-dernier recueil de poèmes paru en 2016 chez Flammarion. Et ces jours-ci, vous publiez presque simultanément deux ouvrages, deux récits de voyages fort différents. l'un de la collection « Ma nuit au musée » des éditions Stock, consacré à la nuit mémorable que vous passez dans le musée de Franco Maria Ricci à Fontanellato, à quelques kilomètres de Parme, et le second, aux éditions Paulsen, d'un tout autre ordre, un voyage en Russie, plus précisément à travers l'Oural, au titre réjouissant de « Oural, Oural encore ». Voyage que vous accomplissez en compagnie de celle que vous appelez votre amoureuse, compagne de voyage qui apparaît ainsi dans les premières pages d'Etc., fourrée de lilas à la frontière biélorusse, où mon amoureuse aux yeux verts éternue deux fois. C'est le pollen ou l'amour? Mais c'est quoi l'amour? Peut-être nos 48 ans et demi aujourd'hui ensemble. Tout ça. Ou rien que le lilas qui explose très doucement. Bernard Chambaz, quel sens donnez-vous au mot « voyage » ?
Tout d'abord, je vous remercie d'avoir lu ce poème. Ce poème est aussi une forme de voyage. Le voyage, c'est comment dire, une espèce d'appel du vide. On est poussé par un étrange moteur qui nous emmène, en fait, un peu comme quand on était tout petit, à aller voir ailleurs si j'y suis. Et il y a toujours eu, à mon sens, dans le voyage, cette dimension aussi d'abord de ce qu'on appelle la littérature, enfin de ce que nous appelons en tout cas vous et moi la littérature, de ce qu'est la géographie, de ce qu'est l'histoire, de ce que sont les paysages. Et à travers les paysages, c'est aussi toute une série d'aspects. Je pense à la peinture, je pense à la photographie, je pense aux couleurs, à la lumière, à la matière, enfin tout est là dans le voyage.
Le petit cheval n'y comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ces caissons, ces arbres de fer, ces chars, ces chansons qui sortent de fleurs suspendues et rien ne sert de trotter? Les mots de métal volent le long de la route au vent malicieux des poteaux télégraphiques. Le petit cheval n'y comprend rien. Le petit cheval n'y comprend rien. Le paysage est un géant enchaîné avec des clous d'usine. Le paysage s'est pris les collines dans un filet de baraquement. Le paysage a mis des colliers de fumée. Le paysage a plus d'échafaudage qu'un jour d'été n'a de mouche. Le paysage est à genoux dans le socialisme. Et l'électricité étire ses doigts fins du ciel à la poussière. Le petit cheval n'y comprend rien. Personne ne dort dans ces maisons d'hommes. Ça siffle comme après un chien et des léopards de feu se détachent au passage des wagonnets le long du combiné des sous-produits chimiques. Tonnerre du minerai tombant aux concasseurs, tonnerre du rire des hauts fourneaux, tonnerre d'applaudissements des eaux de barrage au numéro d'un clown inconnu qui crache du fer. Le petit cheval n'y comprend rien. Il y a des mouchoirs rouges avec des mots blancs tendus au travers du ciel des routes ou noués à des machines ou comme des beefsteaks à la gueule des bâtiments. Il y a des conseils d'hygiène jusqu'au fond de la nuit du charbon. Il y a de l'idéologie en pagaille au déballez-moi ça des monts. Le petit cheval n'y comprend rien. De grands types circulent entre les épaules de la terre. Et sous leurs mains calleuses, familièrement, claquent le flanc de l'avenir. De grands types qui lisent aux voyants des édifices publics les chiffres mystérieux de la fonte et du coq produit chaque jour. De grands types pour qui le ciel et la montagne se résument le soir dans un accordéon. Oh, mon amour. Oh, mon amour, allons au cirque où fait de la voltige un Italien qui s'est sauvé de chez Mussolini dans les soutes d'un vapeur rouge dont le Vésuve a salué longtemps le départ. Et puis nous remonterons vers la ville socialiste à laquelle il manque encore ses balcons, entendre ce qu'ont à dire de la poésie les membres de la brigade Maxime Gorki, quand on pense que le Blooming n'a pas encore son poète. Le petit cheval n'y comprend rien. Sur un sein de la ville, un monde fou s'agite. Les femmes de Paris-ci ont les yeux si noirs qu'on s'y noirait, les échoppes ont l'air de femmes bien-aimées, un photographe rose a seul des larmes dans la voix. Au fait, que disait-elle au début de ce poème, la voix aérienne qui saute à mesure qu'on s'en va d'un pavillon vers l'autre et qui reprend l'antienne sans laquelle un quelque chose assurément manque au panorama. Et les mots s'égrenaient, s'engrenaient à la fresque immense ou dans un coin détail, un mammouth forgeron regarde avec tendresse un tout petit Lénine en plâtre. Le petit cheval n'y comprend rien. Tu n'y comprends rien, petit cheval. Est-ce que tu ne détestes pas à tes heures le fouet et le goût qu'il donne à ton foin? Est-ce que tu n'as pas vu dans les villages des hommes avoir faim près des vierges en or? Petit cheval, ne presse pas ta course, écoute, petit cheval, les mots radiophoniques qui sont la clé de ce rébus d'Oural. Écoute, petit cheval, écoute bien. La technique, dans la période de reconstruction, décide de tout. Petit cheval, comprends-moi bien.
La technique dans la période de reconstruction décide de tout. Vous reconnaissez ce petit cheval, Bernard
bien
Chambaz,
sûr.
Lu ici par Jean Servais.
Oui, je reconnais aussi la voix de Jean Servais qui, voyage pour voyage, me rappelle l'homme d'Oriot de Jean-Paul Rapneau, mais c'était un autre type de voyage. Oui, c'est très bien lu d'abord, mais je voudrais juste rappeler que Aragon lui-même était très sévère pour son recueil de poésie orale. Il ne l'aimait pas, il l'a plus ou moins renié, enfin, il en a parlé comme de Front Rouge, comme des livres de poésie qu'il n'aimait plus. Il y a aussi cette chose intéressante qu'il était, en fait, ses poèmes qui ont été publiés 2 ans après son voyage ont remplacé un reportage qu'il devait écrire, qu'il n'a écrit que pour un article dans le journal L'Humanité. Ce poème a aussi remplacé un récit de voyage, je le dis, un moment que beaucoup plus tard, je crois c'est en 1974, dans son œuvre poétique complète, il a dit regretter ne pas avoir écrit, lui qui n'a jamais, à ma connaissance, écrit de récit voyage au sens propre. Donc c'est, en ce sens-là, le Oural d'Aragon est un livre extrêmement étrange et extrêmement intéressant dans lequel l'auteur l'aura entendu, il sera peut-être d'accord avec moi ou pas. Il y a à la fois des beaux vers, comme le ciel qui se replie le soir comme un accordéon. Moi, je trouve ça magnifique. Il y a aussi des choses intéressantes, comme l'importance de la technique. Et puis, il y a des vers, effectivement, qui sont moins convaincants. Il y a aussi ce qui me touche beaucoup, c'est cette proximité entre la poésie et la prose. Et je pense que la lecture de Jean Servais en rend bien compte. D'une certaine manière, et Aragon, je pense, aurait été prêt à le dire, la différence est vraiment minime entre la poésie et la prose. Et ça, c'est, je pense, de toute façon, au-delà du recueil lui-même, une grande leçon.
Donc vous avez choisi de traverser l'Oural après Aragon, non seulement refaire ce voyage, mais intituler votre livre « Oural encore ».
Oui, enfin le titre s'est imposé. Je trouvais que l'Oural était beau, que le encore montrait que l'Oural était encore là, qu'on pouvait encore y voyager. Oui, je suis allé dans l'Oural parce que j'avais déjà fait plusieurs voyages en Russie ou dans l'ancien empire soviétique depuis l'an 2000. En fait, j'avais fait un premier voyage, et donc un livre qui s'appelait « Petit voyage d'Alma-Ata à Ashrabat », qui était l'Asie centrale, qui était quelque chose d'assez merveilleux. J'avais fait aussi, j'avais tracé une droite de Arkhangelsk à Astrakhan, donc du nord au sud, et donc j'avais fait le chant d'un poème dans mon livre « Été 2 ». Et là, cherchant un autre itinéraire pour changer, pour ne pas refaire la même chose, tout le monde ayant pris le Transsibérien en 2011... En 2013, entre 2011 et 2013, en hommage à Sandrard, je me suis demandé où je pouvais aller porter mon sac à dos et l'Oural s'est imposé. Avec aussi cette espèce de magie de la frontière.
Et qu'est-ce qui s'est imposé dans l'Oural, plus que dans l'extrême-orient soviétique, ex-soviétique?
Ce qui s'est imposé à moi dans l'Oural, d'abord, enfin, ça a été le choix dans un premier temps. Il y a eu deux moitiés de voyage, un l'hiver en train et l'autre l'été en autocar. Il est sûr que la première moitié, l'hiver, nous a, mon amoureuse et moi, absolument comblés. Parce que la neige était au rendez-vous, parce que le froid était au rendez-vous, parce que l'antique beauté des villes russes était au rendez-vous, parce que les harengs et la cacha étaient parfois au rendez-vous, pas toujours malheureusement, parce que certaines rencontres que nous avons pu faire dans le train étaient extrêmement émouvantes. Tout ça, c'est offert, ouvert à tout le monde, je dirais, parce que c'est ces 300 mots de russe suffisent. C'est des débris de souvenirs du lycée qui suffisent avec des sourires et un petit peu d'application et un petit guide à côté permettent de faire de ce qu'on appelle de belles rencontres. Voilà, c'est tout ça déjà dans un premier temps.
C'est ce que j'allais vous poser. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Comment est-ce que vous préparez vos voyages? Vous voyagez en vous disant, au bout, il va y avoir un livre. Est-ce que le voyage précède l'ouvrage? Est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que donc vous apprenez le russe? Vous documentez?
Enfin, la préparation du voyage, ou comme on dit, la préparation des titres, elle est quand même minimale. Elle est, je dirais, dans l'envie, dans le désir, dans l'ouverture des possibles. C'est-à-dire, je suis bien souvent, rien n'est préparé à l'avance. Enfin, un minimum malgré tout, surtout en Russie où la bureaucratie, comme le ciel, a aussi de beaux restes. Donc, un itinéraire est préparé. Après, il y a beaucoup de liberté à l'intérieur. Il y a, en général, pas de guide de voyage. Et en général, c'est quelques livres qui me guident, qui m'appellent. Et là, en l'occurrence, des livres russes, plus que Aragon était, je dirais, le motif un peu abstrait.
Et des livres russes, donc avec quoi voyage-t-on dans ce cas-là, quand on voyage dans l'Oural?
Là, en l'occurrence, il y avait le docteur Jivago, qui est quand même un grand roman classique, qui m'intéressait à la fois parce que j'ai une grande admiration pour Pasternak, pour l'homme qu'il fut, qui était un type en plus très très beau, très russe, et qui me touchait aussi beaucoup par un des aspects qui m'ont appelé là-bas, qui a été sa résistance au système soviétique, notamment au moment de l'attribution du prix Nobel que le régime l'a contraint à refuser. Et c'est là où, malheureusement, on retrouvera Aragon. Puis l'autre grand auteur russe, c'était Chalamov. Alors Chalamov, on le connaît un peu en France, on le connaît évidemment beaucoup moins que Solzhenitsyn. À mes yeux, je ne suis pas le seul à le penser, que les récits de la Kolyma sont probablement le livre le plus fort, le plus brûlant, le plus glacé sur le goulag. Et moi, j'avais aussi rencontré Chalamov, justement dans ce voyage d'Arkhangelsk à Astrakhan, en passant dans la ville du nord de la Russie dans laquelle il avait vécu. Et là, j'ai trouver un truc que je ne m'attendais pas à trouver, qui est un livre qui s'appelle Vichira, dans lequel il raconte son expérience du goulag dans l'Oural. Donc là, j'étais, si je puis dire, bien dans mon sujet, et il le raconte aussi d'une manière originale. Comment dire, le lecteur aura là une image complémentaire de ce qu'était le goulag et lui permettra sans doute de mieux comprendre ce qu'a été le goulag, de mieux comprendre ce qu'en a été l'horreur et de mieux comprendre pourquoi cette horreur n'était pas que de l'horreur et pourquoi finalement cette horreur a pu être supportée.
Et un des chapitres du livre, c'est d'ailleurs le goulag, le camp de Perm, oui. Aujourd'hui musée du goulag.
Oui, alors ça c'est étrange. En plus, il y avait cette histoire où j'ai lu que le type qui avait été convié à l'inaugurer a dit que ça lui faisait drôle parce que enfin il était en même temps une pièce de ce musée puisqu'il avait été lui il avait vécu des années et des années dans ce goulag. Oui, il faut s'imaginer, vous arrivez devant. C'est extrêmement, enfin, surprenant, quoi. C'est devant des baraquements qui sont dans une enceinte close. Donc là, on est l'hiver, au mois de mars, il y a 3 mètres de neige partout, il y a des bouleaux tout autour, il y a de la neige sur les bouts. Enfin, et là, dans ce musée, il y a quasiment personne. On était quasiment que tous les deux ce jour-là à le visiter. Il faut dire, si, notre rôle aussi est peut-être de soutenir notamment le mouvement qui s'appelle Mémorial et tous ceux qui se battent pour que ce musée continue à exister. Le jeune homme qui nous a fait visiter le goulag nous disait que tous ceux qui venaient, tous avaient eu un père, un frère, un grand-père, un oncle qui avait été dans ce goulag et il concluait, ça fait quand même beaucoup de monde. Et là, il s'appelle Perm 36, c'est le seul des, je crois qu'il y avait à peu près 150 camps Goulag, dans l'Oural, jusque dans les années 50, enfin entre les années 30 et les années 50.
Oui, celui-là, le dernier, ferme d'ailleurs dans les années 90, enfin oui, juste avant les années 90, en 88.
Oui, oui, tout à la fin du système soviétique. Enfin, à la fin, il y avait quasiment plus que des droits communs. Enfin, bon, après, on sait que la limite entre les droits communs et les politiques est parfois assez fine.
Bernard Chambaz, est-ce que le voyage, c'est la mémoire? Est-ce que voyager, c'est justement reconstituer, creuser cette mémoire des territoires dans lesquels on se déplace?
Oui, là, je pense, si vous parlez de mémoire, vous touchez à quelque chose de très profond pour moi et pour la plupart d'entre nous. Je pense que, oui, le voyage, il est là à la fois pour... comment dire, activer cette mémoire, il est là pour montrer que ce qui a été est encore, et pour le replacer dans des paysages qui sont intangibles, donc plus ou moins immuables. Et la puissance du voyage réside aussi dans cette activation de la mémoire. Si la mémoire est là avec nous, en nous, celui qui voyage se doit, y compris à l'égard de lui-même, d'être totalement au présent, à la surprise de ce qu'il peut voir, de qui il peut rencontrer, de tout ce qu'il peut découvrir. C'est-à-dire que, en ce sens-là, c'est peut-être aussi le voyage une fabrique de futur.
Dans ce sens-là, est-ce qu'il y a un travail du livre de voyage? Est-ce qu'on, justement, dans ce cas-là, est-ce qu'on choisit les personnages, les gens qu'on rencontre? En tout cas, dans la version finale du livre, est-ce qu'on travaille ses notes comme on le ferait pour un récit, un roman, un recueil de poèmes? Est-ce qu'on travaille les descriptions aussi de la même façon ou pas?
Pour moi, ce livre-là, c'est la première fois que j'ai pris des notes. En général, les voyages que j'ai faits, j'essayais d'en donner... un sentiment, enfin, d'en faire une espèce de voyage sentimental, d'en faire, comme aurait dit Michel Chaillou, un sentiment géographique. Et puis, là, peut-être que le romancier en moi, enfin, a peut-être pour une fois dicté sa loi, et j'ai voulu pouvoir m'appuyer sur des détails. Si je n'avais pas pris de notes, je ne les aurais pas retenus.
Mais est-ce qu'on peut imaginer, pourquoi est-ce que forcément vous devez la vérité quand vous faites un journal de voyage? Pourquoi toujours le voyage s'astreint à ce côté très réel, terre à terre? On pourrait dire oui, non, là, j'ai imaginé tout ça. Finalement, ces 500 kilomètres, je ne les ai pas parcourus, mais je me suis dit que voilà, ils devaient bien ressembler à quelque chose que je pouvais plus ou moins concevoir.
Oui, ben ça, Sandrard l'a fait de façon géniale, mais bon, faut s'appeler Sandrard. Après, moi, j'ai pas le culte de, comment dire, la vérité, c'est un concept, une notion que j'utilise avec beaucoup de prudence. Donc c'est pas, je ne tiens pas à dire forcément que c'est vrai, mais pour ce qui me concerne, c'est peut-être sans doute une limite, mais je ne verrais pas l'intérêt de raconter 500 kilomètres que je n'aurais pas fait.
Et donc, qu'est-ce qu'on ramène de voyage? Alors, dans ce récit de voyage, il y a des moments marquants. On l'a vu, la visite du musée de Perm, ou votre quête pour les harengs et la cacha, qui semble être un peu votre obsession gastronomique en Russie. Ouais. Et qu'est-ce qu'on ramène, alors, quand on est justement un écrivain de voyage, à part le livre? Qu'est-ce qu'on garde, peut-être?
Fondamentalement, c'est l'envie d'y retourner. Voilà, je pense à Pérec, sur la tentative d'épuisement d'un lieu, on ne l'épuise jamais. Déjà, on n'épuise pas la place Saint-Sulpice à Paris, donc on épuise encore moins l'Oural. Donc il y a, dans le retour, il y a aussi, c'est un autre mot de Sandrard, il y a aussi beaucoup de mélancolie. C'est cette mélancolie, mais moi je défends l'idée d'une mélancolie légère, c'est-à-dire que faut bien distinguer de quelque chose de plus pénible. Donc cette mélancolie légère, on la ramène, elle nous habite. Alors elle nous habite, la chance que nous avons aussi, c'est que écrivant le livre de voyage, on voyage encore. Ça c'est quelque chose de, je trouve, d'assez formidable. Et puis une fois que le voyage est terminé, que le livre est terminé, on a peut-être la chance d'avoir quelques lecteurs, et que c'est peut-être, continuons-nous un peu à voyager à travers nos lecteurs, je ne sais pas.
D'où provient cette mélancolie, justement, du voyage?
Je pense que elle nous habite profondément. Et je pense que le mouvement nous fait du bien. En règle générale, enfin, jusqu'à cet oural, j'ai tendance à dire, parce que c'était la réalité, ou si vous préférez la vérité, c'est que les temps de voyage étaient les temps de ma vie où je me sentais le mieux, où je me sens le mieux. Alors même que le voyage peut être difficile. Parce qu'en voyage, quel que soit le poids de la mémoire, en voyage, on est totalement au présent. On est au présent de ce qu'on voit, on est au présent de ce qu'on doit faire. Le voyage est le moment dans lequel on peut allier sans doute cette légère mélancolie qui nous habite et l'allégresse du présent qui nous aspire.
Est-ce que l'image poétique, est-ce qu'elle vient dans le voyage? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aperçoit comme ça, comme un éclair par la fenêtre d'un train? Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'on reconstitue a posteriori?
Non, je pense fondamentalement, on le voit à travers la fenêtre du train. Et quand on passe longtemps dans le train, on a le temps de voir passer quelques éclairs. Après, le travail, enfin, moi, j'adore voyager, mais j'adore aussi écrire. Hein, sinon, je ferais autre chose que des voyages et que d'écrire des livres. Mais c'est sûr que la phrase est notre élément. Tout se passe dans la phrase. Le miracle, c'est effectivement quand il y a un éclair dans une phrase. C'est-à-dire quand quelque chose apparaît dans cette phrase, dans l'équilibre des mots. Voilà, que les mots, les verbes sont à leur place et nous disent quelque chose.
Bernard Chambaz, vous avez beaucoup voyagé donc en Russie. Qu'est-ce que ce dernier voyage en Oural vous a appris sur les Russes que vous ne saviez pas avant?
Ce qui m'a appris, c'est que j'ai l'impression que la jeune génération russe ressemble plus que jamais aux jeunes générations non russes, enfin, françaises ou américaines, etc. J'ai été frappé malgré tout par le fait que, même si la Russie reste la Russie, et enfin, un exemple qui me frappe toujours, c'est le nombre de boutiques de fleurs, le nombre de sauts de fleurs dans la rue, le nombre de bouquets de fleurs que les hommes offrent aux femmes, ou si vous voulez, les hommes aux hommes, ou les femmes aux hommes, peu importe, ce qui est tellement russe. Mais sinon, ce qui m'a frappé dans ce dernier voyage, franchement, c'est le nombre de téléphones portables. Et l'usage immodéré du téléphone portable, voilà, qui m'a tellement rappelé ce que je peux voir en France, ce que je peux voir aux États-Unis, ce que je peux voir en Italie. C'est sans doute ça qui m'a peut-être le plus surpris dans ce dernier voyage.
On préfère quand même les fleurs et les bouquets de fleurs au téléphone portable. En tout cas, merci beaucoup Bernard Chambaz. L'Oural encore est paru aux éditions Paulsen.
Merci beaucoup.
On se souvient qu'autrefois, dans les paquebots et les cargos, de magnifiques transmetteurs d'ordre en cuivre faisaient résonner les instructions de la passerelle jusqu'aux entrailles du navire. Comme chaque semaine en fin d'émission, un message parvient jusqu'à notre salle des machines pour partager une expérience d'écriture. Aujourd'hui, c'est Marie Baudry, dont le roman Ossip Ossipovitch paraît aux éditions Alma. Fabuleux roman de la révolte dans une Odessa réinventée.
On est un con. On est un con, c'est la phrase que martelaient les bonnes sœurs quand elles apprenaient les rudiments du beau langage à la mère d'Ossipovitch qui les lui avait à son tour transmis. Bien sûr que oui, même les hommes sans âge et presque sans visage comme l'était Ossip ont eu une mère. Bien sûr aussi que les bonnes sœurs disent des gros mots. On est un con. On s'en souviendrait si on lui demandait comment on en était arrivé là. Mais où là au juste? Sur une boîte enregistreuse? Nul doute alors qu'Ossip se déroberait. On n'en arrive pas là parce que on est un con. Et si on, ce con, se met à parler, à vouloir s'expliquer, à prendre le on, ce con, pour lui, ce serait inévitable, on voudrait faire son original, son intelligent, trouver un moyen d'être piquant, vif, et on savait très bien qu'à ce petit jeu-là, hormis un peu d'égocentrisme satisfait, on risquait bien de se perdre, comme toujours. C'est pourquoi Ossip avait préféré croire que on n'avait rien de personnel. On, ce n'était personne en particulier, surtout pas un jeu déguisé. On, c'était cette masse anonyme dont les bonnes sœurs disaient qu'on devait alors le remplacer par nous. On, c'était nous. D'accord. Nous, les Odécites. Nous, des métropoles et des confins perdus. Nous qui nous étions perdus jusque-là, jusqu'en cette torpeur qui nous laissait consentir à ce que d'autres fissent le pire, amoncelassent des richesses et des richesses à n'en plus finir dans une débauche inédite de vulgarité et de destruction du monde. C'était idiot. Nous étions seulement fatigués, vaguement consentants. Absolument résigné, et puis comment lutter contre ce tout informe et si puissant? Ça avait été très facile de les laisser prendre un pouvoir dont plus personne ne voulait à part eux. Cette lie humaine qui était seule à s'en délecter encore. Cela semblait impossible de les faire ne serait-ce que vaciller. Mais Ossip ne pouvait se satisfaire d'une telle interprétation des choses. Aussi avait-il choisi la dernière et la meilleure des hypothèses. Comment en étions-nous finalement arrivés là à croire possible le soulèvement? À braver la fin du monde et la puissance infinie des engraissés, cela avait été plus simple qu'il n'y paraissait. Pour en arriver là, il avait fallu, il fallait, et il faudrait sans fin redonner sens à ces grands mots sans cesse bafoués. Amour, justice, vérité. Trois trop grands mots pour Ossip, mais qui désignaient des réalités très simples et qui n'exigeaient rien d'autre que de faire vivre et grandir ce « nous ».
C'était la salle des machines. Un grand merci à Céline Leclerc, à Agnès Catou, notre réalisatrice, avec Jason Taous à la prise de son aujourd'hui. Dimanche prochain arrivera vite, mais d'ici là, réécoutez les épisodes précédents de la salle des machines sur franceculture.fr.